nzamba
nzambira samirana
Merci d'écouter la radio Inzamba Gatekakawe. C'est l'heure du journal en langue française, dont voici d'abord les principales articulations. L'organisation internationale Human Rights Watch se dit inquiète de la persistance des violations des droits de l'homme au Burundi. Elle demande la reconduction de la commission d'enquête des Nations Unies en fin de mandat. Le parti CNDD-FDD est en train d'exproprier les biens des gens à l'instar de ce qui a été fait en 1972. C'est le constat amer fait par la coalition politique Sephora Arusha. Elle fait allusion de l'occupation des bâtiments de la maison Shalom par le secrétaire général du parti CNDD-FDD Révérien Dikuri. Et puis les pluies diluviennes qui se sont abattues sur les provinces de Kayanza, Makamba et Muyinga ce jeudi ont fait 3 personnes tuées et beaucoup de maisons endommagées. Voilà pour l'essentiel de ce journal à la présentation. Josephine Johnson-Mundimana, bienvenue à tous.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Je vous le disais en titre, 3 personnes ont été tuées, d'autres blessées et des maisons endommagées. C'est le bilan des dégâts occasionnés par des pluies mêlées de vents violents qui se sont abattus sur les provinces de Kayanza, Muyinga et Makamba. Les précisions avec Jean-Marie Ndabashinze.
2 parmi les personnes mortes sont d'une même famille sur la colline Murango, zone Gitaba de la province Makamba. Elles ont été foudroyées dans l'après-midi de ce jeudi vers les 17h, alors qu'elles étaient dans leur propre maison. 4 personnes de la même famille ont été grièvement blessées. Pour le moment, elles sont alitées à l'hôpital de Makamba pour des soins. Dans la province Muyinga, un enfant âgé de 4 ans résidant sur la colline Kiyange, commune Wenyuza, province de Muyinga, est mort à la suite d'une forte pluie qui a emporté la maison familiale. Selon des sources concordantes en provenance de Kiyange, l'enfant a été grièvement blessé par les décombres de la maison qui n'a pas pu résister à la pluie torrentielle. Selon la même source, la victime a rendu son âme à l'hôpital de Muyinga où elle avait été transférée. Sur cette même colline, l'administration déplore la démolition de plus de 25 maisons suite aux intempéries d'hier soir. Dans la province de Kayanza, les cours n'ont pas été dispensés ce vendredi dans les classes de 3e et 4e année de l'école fondamentale de Gateko, zone Kivuvu en commune de Kabarole. Et pour cause, les toitures et les bâtiments se sont envolés suite à une pluie orageuse qui s'est abattue dans l'après-midi de ce jeudi. Cette situation a occasionné l'endommagement des livres des élèves et le manuel des enseignants. Les chargés de l'éducation dans la commune Kabarole craignent que ce qui est arrivé à cette école n'arrive un jour aux écoles fondamentales Yanza, Mugongo et Gishuru, dont les bâtiments sont en état critique.
Et puis, les arrestations et les détentions illégales ont été faites sur base de discriminations ethniques et politiques. C'est le constat du groupe de travail de l'ONU sur le chapitre des détentions arbitraires. Cela se trouve dans un 5e rapport sur la situation des droits de l'homme au Burundi, un rapport produit par la commission d'enquête sur le Burundi. Les gens qui ont été victimes de ces arrestations sont principalement les militaires ex-FAB et les opposants politiques. Les détails avec Blaise Midjimbe.
Le groupe de travail de l'ONU chargé des droits de l'homme a inventorié quelques cas d'arrestation arbitraire. Parmi ces cas, figure celui de Jean-Claude Hamenimana, un commerçant, arrêté le 19 janvier 2016 à son domicile à mairie de Bujumbura. Il a été arrêté par les policiers de la brigade de recherche et d'intervention judiciaire. Il a été arrêté sans mandat d'arrêt et le motif ne lui a été signifié. Le deuxième cas est celui de Patrick Nsengiyumva, un ancien militaire ex-FAB. Il a été arrêté le 8 août 2015, une semaine après la mort du général Adolphe Nshimirimana. Ernest Nyabenda est un autre ancien militaire arrêté le 2 août 2015. Les deux ont été gardés pendant une longue période dans les cachons du service de renseignement. Un autre ancien militaire reconnu par la commission est Kado Bigirumugisha. Il a été arrêté le 10 août 2015, lui aussi après la mort d'Adolphe Nshimirimana. aucun mandat d'arrêt ne lui a été signifié. Et notre cas d'arrestation est celui de Philbert Niyonkuru, un autre ancien militaire. Il croupit au cachot depuis le 18 août 2015. Il a été auditionné par la documentation, mais il n'a pas été accompagné d'un avocat. Son arrestation est considérée par la commission comme une discrimination ethnique et politique, car aucun élément à sa charge, sauf que c'est un ancien militaire et un corps dominé par des Tutsis à l'époque.
Entre-temps, l'organisation Human Rights Watch demande la reconduction de la commission d'enquête sur les crimes commis au Burundi depuis 2015 pour continuer les enquêtes. John Fisher, représentant de Human Rights Watch au bureau de Genève, affirme qu'il y a toujours des cas de violation de droits de l'homme et que l'impunité s'observe toujours depuis l'investiture de Ndayishimiye. John Fisher demande qu'il y ait un plan d'action concret pour lutter contre l'impunité. John Fisher.
Ce qui est un peu préoccupant pour nous, c'est que l'Union européenne, qui a traditionnellement présenté la résolution sur le Burundi au Conseil de droits de l'homme, est en train de débattre un peu l'approche. Il y a quelques-uns qui pensent que la commission d'enquête n'est plus nécessaire. Il y a quelques-uns qui pensent qu'un rapporteur spécial, par exemple, un expert indépendant sur le pays devrait mettre en place. On n'a rien contre un rapporteur spécial, mais c'est clair qu'un seul individu n'aura pas la capacité documentée de surveiller tout ce qui passe dans le pays. Qu'il y a toujours un besoin d'avoir toute une commission d'enquête ou quelque chose de pareil, et aussi avoir un mandat pour avancer à la lutte contre l'impunité. C'est clair qu'avec un changement de président, il y avait quelques espoirs que ça mènerait à un changement d'approche, et ça reste toujours l'espoir. Nous aussi, nous aimerions bien avoir un processus où le gouvernement respecte plus les droits humains. Il y a un plan d'action très concret pour faire des réformes, des changements, pour avancer la justice pour les victimes, etc. Mais en ce moment, tout ça manque de la discussion. Alors, sur le Conseil de droits de l'homme, si l'ONU va changer son approche, va être moins fort ou plus susceptible à entrer dans des discussions d'engagement, ça devrait en réponse à des vrais changements sur le terrain. Et c'est ça qui est nécessaire. Et en ce moment-ci, on verra comme les négociations à Genève continuent à dérouler. Mais en ce moment-ci, il nous semble que le gouvernement de Burundi juste nie totalement, juste refuse d'accepter qu'il y a même des choses à changer, qu'il y a même des abus ou des violations. Alors on a besoin d'avoir un vrai engagement à la justice, la lutte contre l'impunité. Et pas juste des paroles non plus, plan d'action très concret.
Un problème de surpopulation carcérale s'observe dans beaucoup de maisons pénitentiaires du pays, comme l'a soulevé l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture, ACAT, dans son rapport du mois d'août 2021. Cette organisation constate que les capacités d'accueil dans cette prison ont été largement dépassées. Jean-Claude Niburumusi, chargé du département juridique dans cette organisation, demande au gouvernement de mettre en exécution des mesures judiciaires pour réduire le nombre de détenus dans les prisons. Écoutez Jean-Claude Niburumus.
En ce qui concerne la population carcérale, nous avons constaté que les prisons du Burundi regorgent jusqu'à présent un nombre extrêmement élevé par rapport à la capacité d'accueil des détenus. Par exemple, la prison de Muramvya, qui a une capacité d'accueil de 100 détenus, regorge aujourd'hui 704, soit un taux d'occupation de 704%. La prison de Mimba a un taux d'occupation de plus de 741%. Ce chiffre est extrêmement élevé et que les conditions de vie devient extrêmement difficile. La CAT Burundi donc recommande au ministère de la Justice, qui est en charge la gestion des détenus, de faire tout ce qui est possible en fait d'améliorer la situation carcérale en autorisant les détenus à recevoir les visites tout en arrêtant des mesures barrières, bien sûr, faire respecter les décisions rendues par les cours et tribunaux et respecter le droit à l'alimentation des détenus et améliorer les conditions carcérales en prenant des mesures de désengorgement des prisons et de traiter sur le même pied d'égalité tous les prisonniers.
Inzamba.
Nous poursuivons ce journal. Omar Mungarabu, un jeune Imbonerakure d'Okizila, en commune Gianga de la province de Mwanza, qui était introuvable depuis vendredi de la semaine passée, est revenu hier à son domicile. Les proches de sa famille avaient alerté sur son absence après avoir répondu à l'appel du responsable des Imbonerakure, le prénommé Oswald. Il était parti pour une ronde nocturne depuis vendredi de la semaine passée et n'était pas revenu. Et puis, après plus de 2 mois de détention en garde à vue dans les cachots du Service national des renseignements, Madame Evelyne Kamikazi et son frère Gérard Wigilimana ont été libérés mercredi dernier. La décision de leur mise en liberté a été prise par le tribunal de grande instance de Mukaza. Evelyne Kamikazi avait été arrêtée à Mugamba par l'ex-commissaire de police Moïse Arakaza, connu sous le sobriquet de Nyega Nyega. Son frère Gérard Wigilimana avait été enlevé à Kinyosha en mairie de Bujumbura par les agents du Service national des renseignements. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le parti CNDD-FDD, à travers son secrétaire général, est en train d'appliquer l'expropriation des parcelles et des biens privés. C'est la copie du système de 1972 dont la maison Shalom en est une des victimes. Déclaration d'Emmanuel Ndereyimana, un ancien cadre du CNDD-FDD, devenu aujourd'hui opposant dans la coalition Sefor Arusha, qui milite pour la restauration de l'accord d'Arusha. Emmanuel Ndereyimana est aussi une victime de la crise de 72 au Burundi. On l'écoute.
Les mêmes choses qui se sont passées sous le pouvoir de Micombero sont en train de se passer aujourd'hui et c'est très dommage. Mais tout ça, on a connu des signes avant-coureurs de la situation que nous traversons aujourd'hui, mais certaines personnes n'ont pas su déchiffrer ce que c'était réellement. Et le même révérien Ndikuriyo, qui a installé son école de football, Académie Aigle Noir, dans les locaux de Maison Shalom à Ruigi. Et rappelez-vous, quand il poussait les jeunes Mbonerakure en Gagara pour aller tuer les habitants de Gagara, en annonçant que la récompense sera les parcelles de ces gens-là qui seront tués, d'autres poussés en exil. Tout le monde est au courant de ça. Et c'est un projet du CNDD-FDD et qui était là depuis qu'on est en train de voir la réalisation aujourd'hui. Rappelez-vous, dans le passé le plus proche possible, quand on a exproprié le collège Saint-Albert, le collège Saint-Gabriel, soi-disant que l'État récupère ses parcelles. Le CNDD-FDD, en écartant les accords d'Arusha, préparait ses actions aujourd'hui. Parce qu'avec les accords d'Arusha, on ne pouvait pas arriver à ces bavures qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Rappelez-vous que en 72, on a tué des innocents. On a pris leurs biens, l'argent, les maisons, les comptes bancaires. On a exproprié les gens qu'on a tués. On les appelait les Bamenja. Aujourd'hui, le CNDD-FDD fait la même chose. Ces gens qui sont expropriés, ces gens qui sont tués, ces gens qui sont poussés en exil, on les appelle les Mujeri. On donne des étiquettes à une catégorie de personnes pour les exclure de la société et prendre leurs biens gratuitement. Donc, un vol qualifié aux vies et aussi de tout le monde. Donc, ils sont en train de faire le copier-coller de ce qui s'est passé en 72 sous le régime Micombero. C'est comme s'ils sont en train d'opérer une vengeance quelconque aux gens qui ne connaissent rien dans tout ça.
Certains habitants de la commune de Kirundo se lamentent. Une réunion de sécurité qui devait regrouper les représentants des partis politiques ce jeudi a finalement réuni des Imbonerakure qui portaient des signes d'autres partis politiques pour faire partie des comités de sécurité. Le point avec Beni Axelakan.
Cette réunion de sécurité tenue ce jeudi à la permanence du parti CNDD-FDD devait réunir les membres des différents partis de la commune Kirundo. Nos sources dans cette province indiquent toutefois que des Imbonerakure portaient des insignes des autres partis politiques pour montrer que la réunion a été répandue par tous les partis politiques. Celui-ci est l'un des habitants de la commune.
Cette réunion avait pour but d'instaurer des comités mixtes de sécurité venus de tous les partis politiques. Les Imbonerakure sont toutefois allés prêter des insignes des autres partis. L'objectif est de se faire élire dans le comité de sécurité comme des membres des autres partis politiques de l'opposition comme CNL, Prodebou et l'IPRONA.
Les habitants de cette commune trouvent que c'est une manœuvre planifiée par le parti au pouvoir afin de montrer que la réunion a été répondue par tous.
Les habitants trouvent que c'est une manœuvre du parti au pouvoir pour montrer à l'opinion que ce comité de sécurité sera composé par des membres de différents partis politiques, alors que ce sont des Imbonerakure de la Corée. Ces derniers portaient des insignes des autres partis politiques, alors que ce sont des jeunes du même parti au pouvoir.
La radio Inzamba a contacté par téléphone Viateur Hatungimana, l'administrateur de la commune Kirundo, mais n'a pas voulu s'exprimer sur ce dossier.
Et pour boucler ce journal, la compagnie de gérance du coton Kozerko est au bord de la faillite. Cela a été dit par Gustave Majambele, directeur général de cette entreprise, dans une conférence de presse de ce vendredi. Il a souligné que cette entreprise n'est plus à mesure de payer les dividendes au gouvernement, mais il ajoute qu'il a proposé au gouvernement des voies pour relancer l'entreprise. Suivez-nous.
L'entreprise Kozerko, tantôt, il a connu des difficultés. Et c'est d'ailleurs où je remercie beaucoup le gouvernement, parce que s'il y a eu beaucoup d'entreprises dans ce pays qui ont fermé, c'est vrai que premièrement, ça a été la mauvaise gouvernance, le mauvais management des gestionnaires au quotidien, mais ça a été aussi la non-prise de décision, le non-suivi, et par le gouvernement. Donc, l'entreprise, ce que nous avons vu, les données, je vous disais qu'il n'a pas pu même payer les redevances et les dividendes à l'État qui était 100% à l'actionnaire. Et donc, l'entreprise, aujourd'hui, comme état corollaire de plusieurs années, il est au bord de la faillite. C'est pourquoi nous avons proposé deux voies de redressement. Nous voyons que c'est une voie, si elle est bien menée, c'est une voie qui sera bénéfique, qui va contribuer au relèvement de l'économie nationale.
Voilà, c'est là que se ferme ce journal. Merci bien de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction pour le travail abattu dans la collecte de toutes ces informations que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à la prochaine.